Vous écoutez
RMC. RMC, Estelle Midi.
Midi 7 sur RMC, on va démarrer Estelle Midi avec l'actualité du jour et c'est Gabriel Attal, le ministre des Comptes Publics, qui lance son plan contre la fraude sociale et notamment la fraude au RSA et à l'assurance maladie. L'idée est de mettre fin à des pratiques qui coûtent chaque année plusieurs milliards d'euros à l'État. Écoutez Gabriel Attal, il était l'invité ce matin d'Apolline de Malherbe.
S'il y a des évaluations qui sont faites caisse de sécurité sociale par caisse de sécurité sociale. Si on prend la Caisse nationale d'allocations familiales, la CNAF, qui verse les allocations familiales, le minimum vieillesse, les APL, le RSA, la prime d'activité, ils ont récemment produit une évaluation qui estime autour de 2,8 milliards d'euros par an la fraude aux allocations sociales. C'est l'équivalent du budget du ministère des Affaires étrangères. Et dans leur étude, ils estiment qu'il y a entre 7-8 % d'allocataires qui auraient eu un cas de fraude. Ça fait autour de 900 000 personnes si on rapporte au nombre d'allocataires.
Ça, c'est des infos.
Rémi Barré, il va faire quoi concrètement Gabriel Attal?
Alors Gabriel Attal promet d'abord des moyens. La création de 1000 postes de contrôleurs supplémentaires durant le quinquennat, ainsi qu'un investissement d'un milliard d'euros dans les systèmes d'information. Et parmi les autres mesures annoncées, il y a celle du renforcement des conditions de résidence en France pour bénéficier d'allocations sociales. Il faudra désormais passer 9 mois de l'année en France, contre 6 prévus actuellement. Même chose pour les APL. Bercy veut par ailleurs cibler les retraités qui vivent hors des frontières européennes afin de mieux identifier ceux qui sont décédés mais qui continuent de percevoir des allocations. C'est un phénomène qui existe. Plus d'un million de pensions sont versées aujourd'hui à l'étranger, dont la moitié hors d'Europe, et 300 000 en Algérie. Enfin, Gabriel Attal évoque également la fusion de la carte vitale avec la carte d'identité. Idée que le ministère de l'Intérieur découvre. La place Beauvau a immédiatement réagi hier soir, mettant en garde contre une mesure techniquement impossible et sur laquelle la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, est profondément opposée. Reste qu'au total. Selon Gabriel Attal, la fraude sociale est estimée à un peu moins de 3 milliards d'euros par an. La Cour des comptes, elle, compte différemment. Elle l'estime entre 6 et 8 milliards d'euros par an, à comparer aux 80 ou 100 milliards d'euros que coûterait la fraude fiscale.
Alors, lutter contre la fraude sociale, le gouvernement se trompe-t-il de cible, Daniel Riolo?
Moi, ce qui m'embête, je vais te dire, c'est qu'il y a même un débat sur la question. Et que dans un instant, on commence à parler de ça avec des pour et des contre. Oui, ça m'embête parce que ça me paraît être quelque chose de totalement évident qui ne l'a pas été pendant des années. Où en gros, alors je vais caricaturer volontairement, on a à gauche dit bon, on va pas le faire parce que par clientélisme et puis dans l'idée que vraiment je vais caricaturer vraiment à l'extrême. Hein. En gros, ceux qui fraudent sont les gens qui ont peu de moyens, donc sont les gens qui votent pour nous. Et de l'autre côté à droite, on va pas le faire parce que sinon on va nous accuser d'être le grand méchant loup qui s'en prend au social. Alors que, pardonnez-moi, mais j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas à opposer les gens. Il n'y a pas à dire. Ouais, ça représente pas grand chose, parce que pendant des années j'entendais ça. Ça représente pas grand chose.
La fraude fiscale.
Ce qui est très important, c'est la fraude fiscale. Mais oui, mais alors j'ai pas commencé. J'ai prononcé trois phrases que déjà tu es tombé exactement dans ce que je ne voulais pas.
Je le savais.
À savoir immédiatement. Oui, mais c'est pas autant que la fraude fiscale. Mais on s'en fout. On s'en fout. Il faut taper l'un et l'autre. D'accord. L'État doit récupérer l'argent qui lui est dû. Mais en fait, je ne sais même pas pourquoi pendant des années, on a alimenté ce faux débat, parce que ça n'est pas un vrai débat. Donc maintenant, je ne sais pas, nous avons un leader associatif à côté de nous qui va peut-être trouver que ce n'est pas une bonne idée.
C'est le patron des chômeurs et des précaires. Donc,
qu'il faut d'abord taper sur les autres. Moi, je pense qu'il faut récupérer l'argent là où il est dû, en fait.
Oui, mais en fait, Daniel, je suis désolé, alors là, je vais encore plus t'énerver, mais c'est vrai que cet argent, quand on voit les chiffres que donne Rémi, on se dit, c'est super d'aller taper, effectivement, c'est ceux qui touchent des allocs, voilà, si on veut caricaturer, a priori, c'est pas les plus riches.
Ah, donc en fait, toi, tu tombes dans la caricature, je l'ai pas évoqué, mais j'allais en parler, c'est-à-dire que, en gros, celui qui n'a pas beaucoup de moyens, il a le droit de truander parce que c'est un peu comme un juste retour des choses. C'est un peu comme s'il y avait une justice naturelle qui lui permettait de s'enrichir un petit peu et de prendre sa revanche sur la vie.
Tu l'as cherché.
C'est ça. Non, mais ce que je viens de dire, c'est ce que tu vas dire. J'anticipe sur toi.
Mais je vais le dire de manière beaucoup plus concise. Donc, en fait, c'est-à-dire que là, on essaye de récupérer péniblement un milliard auprès de gens qui touchent des allocs. Donc, a priori, non, là, ce serait un milliard de plus que ce qu'on a déjà récupéré. Donc, de gens qui, a priori, Si, c'est beaucoup, mais quand tu vois qu'il y a 80 milliards qui sont monopolisés par la fraude fiscale, tu te dis, tiens.
Bah, moi, je veux qu'on les récupère aussi, hein.
Ah, ben, bah, très bien. Mais justement.
Bah, comment ça, très bien? Tu ne doutais pas quand même que
je veux qu'on les récupère? Je vais poser une question à Pierre-Edouard qui, souvent.
Ah, ben, bah, tu
représente...
me parles à moi et puis d'un coup, tu.
Je regarde Pierre-Edouard. Tu reprends tes chômeurs et les précaires. Oui, et tu es rangé pendant quelques minutes.
Très bien.
Pierre-Edouard, est-ce que l'État se trompe de cible? Est-ce qu'il aurait dû d'abord taper fort, allez, on va dire, sur les riches et les puissants et laisser un petit peu les pauvres tranquilles?
L'essentiel, c'est qu'il tape proportionnellement. Moi, il y a pas de débat, y compris dans des organisations de chômeurs et de précaires. Personne n'est pour la fraude. Enfin, je veux dire qu'on soit très clair.
Mais c'est bien de rappeler.
Non, mais je le dis parce que vu ce qui vient d'être dit, c'est bien aussi de rappeler. Personne n'est pour la fraude, y compris d'ailleurs parce que les chômeurs et les précaires eux-mêmes sont tout le temps stigmatisés, à mes yeux, en exagérant d'ailleurs leur tendance, sinon à la fraude, du moins à la paresse. Donc, ils en sont, en termes de communication, aussi les premières victimes du discours sur la fraude. Moi, ce que j'ai aussi, pour une fois n'est pas coutume, apprécié dans le discours, c'est que, justement, on ne tapait pas que sur les pauvres au RSA et ceux qui avaient des allocations logement, qui sont pas que des pauvres, le système d'allocations logement est plus large, qui serait en fait la cause de toute la fraude de ce pays. Il a rappelé la fraude à la sécurité sociale, il a rappelé que trois quarts du montant de la fraude à la sécu était dû aux professionnels de santé, qui ne sont pas les allocataires du RSA. Il a parlé effectivement des gens qui touchaient des allocations à l'étranger. Je trouve que la réflexion sur la durée de présence sur le territoire est intéressante. À ceci près, il va y avoir un petit problème, c'est que il faudra 9 mois pour toucher des prestations, mais pour payer ses impôts en France, il faut 6 mois. Ça veut dire qu'on pourrait imaginer que des gens paieront leurs impôts en France parce qu'ils sont 6 mois et un jour, mais comme ils sont que 6 mois et un jour, ils toucheraient pas leurs prestations. Alors, la plupart des gens concernés vont s'en moquer.
La plupart des gens concernés ne payent pas d'impôts, Pierre-Edouard, si on se dit les choses.
Alors, sur les prestations, mais
bah ceux, oui, sur les APL, toujours, non, tu
parce,
vois, par
non, parce que dans la fraude sociale, il y a aussi les fraudes aux cotisations sociales, à l'URSSAF, etc., qui ne concernent. Justement, pour une fois, on n'a pas réduit la fraude à la fraude des pauvres. Parce qu'après, là où je vais taquiner Daniel, comme on dit, il y a souvent un proverbe qui court, c'est que fraude des pauvres, pauvre fraude. Donc, 1 euro de fraude est toujours une fraude de trop,
j'aime
mais
bien,
c'est
ça.
Fraude des pauvres, pauvre fraude. Donc, effectivement, ce qu'il faut, c'est après, s'il y a 10 fois plus de fraude fiscale que de fraude sociale, il faut 10 fois plus de moyens et taper 10 fois plus fort sur la fraude fiscale que sur la fraude sociale. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut la passer, par perte et profit. Après, il y a quand même une petite phrase.
Moi, je suis d'accord avec ça.
Très bien.
Il est juste dans l'approche.
C'est Pierre-Edouard,
donc, en fait, pourquoi pendant des années on a fait ce débat finalement?
Mais parce qu'on l'a pas fait justement.
Donc félicitons le gouvernement d'enfin s'attaquer à ces morts qui touchent des allocations. Parce qu'il y a des cas.
Enfin, en l'occurrence, c'est pas les morts qui les touchent, leur famille.
Des logements, alors qu'ils vivent 6 mois à l'étranger, ça c'est quand même fort.
Et qu'ils reviennent se soigner en France d'ailleurs.
Et est-ce que l'État a raison d'afficher une plus grande fermeté en se disant aussi quand même, Jérôme Lavrieux, que la fraude du voisin gêne toujours plus finalement que la fraude de quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui gère plusieurs milliards?
Mais moi je pense que la fraude de tout le monde doit gêner. D'ailleurs, je conteste le dire la fraude des pauvres. Vous êtes pauvre, vous ne vous fraudez pas. Vous essayez de vous en sortir. Vous essayez de survivre.
Et
j'attends la démonstration que les fraudeurs soient des pauvres. Non, ce sont des gens qui profitent.
Au RSA, a priori.
Non. Celui qui déclare faussement être au RSA, vous ne savez pas s'il est pauvre ou il n'est pas pauvre.
Ah oui, d'accord.
Le mec, il a fait une fausse déclaration. Celui qui remplit les critères pour être au RSA, il a le droit de le faire. Je voudrais juste rappeler que, de mémoire, je vais peut-être être contredit par Rémi, mais il y a à peu près 40% des gens qui pourraient avoir droit au RSA et qui n'en font pas la demande.
Tout à fait. Ouais.
Et moi, ce qui me plaît dans ce qui est dit par Monsieur Attal, c'est les textes de loi qui ont été récemment votés qui vont faire en sorte qu'on n'aura pas besoin de demander une prestation, mais que si on remplit les critères et l'État a les moyens de savoir tout sur tout le monde, on touchera la prestation. Mais donc, pourquoi dépenser beaucoup d'argent pour aller récupérer de l'argent indûment versé? Ce serait mieux de dépenser de l'argent pour verser des aides à des gens qui les méritent et de le contrôler au moment où on l'établit. Et sur la fraude au centenaire, ça fait des années qu'on en entend parler. Il y a des pays, il y a des endroits où l'espérance de vie est dingue. Si vous êtes d'origine française ou si vous avez cotisé en France. Parce qu'on ne déclare jamais le pépé qui est mort depuis 10 ans, parce que personne ne vient jamais vérifier. Et au fin fond de l'Amazonie, ou je ne sais pas où, pour stigmatiser personne, eh bien, on continue à percevoir. La mesure la plus importante qui a été décidée, c'est celle dont on parlera le moins, qui est la plus technique et qui nécessitait juste un décret pour le faire. Et c'est dommage que personne ne l'ait fait avant. C'est qu'on ne pourra plus verser ces aides, ces allocations, etc., sur des comptes bancaires non domiciliés dans l'Union européenne.
Absolument.
C'est-à-dire, si vous habitez dans la Pampa, en fin fond de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique, comme ça tout le monde en prend, sur une banque locale où personne ne vérifie jamais l'identité du récipiendaire, eh bien, vous ne pourrez plus l'apercevoir.
C'est bien, ça
me rappelle quand vous aviez...
C'est pas une majorité de gens non plus.
Mais non, mais ça me rappelle Michel Charras.
Oui.
Quand un jour, je ne sais pas si vous vous rappelez, ils avaient dit il y a tellement de monde au CNRS qu'on paye comme chercheurs et qui n'ont jamais produit d'objets de recherche, qu'à un moment, on ne savait plus combien il y en avait. J'ai coupé la rémunération à tout le monde. Et au bout de 3 semaines, j'ai vu ceux qui râlaient et ceux qui ne se sont pas manifestés. Ceux qui ne se sont pas manifestés, on a arrêté de les rémunérer.
Oui, c'est bien.
Et ben, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est la mesure la plus intelligente, la plus importante, qui ne nécessite pas la carte d'identité dans 20 ans. On n'arrive toujours pas. Ça fait 20 ans qu'on n'arrive pas à foutre une photo sur une carte vitale avec une puce. Et on n'a pas de rendez-vous pour faire sa carte d'identité.
Oui, ça
ne
marchera pas. Oui, ça, ça, vous avez raison.
Ça s'appelle faire du bruit avec sa bouche et ça n'aboutira à rien. La mesure la plus intelligente, c'est le compte bancaire situé dans l'Union européenne.
Alors, on est avec Frédéric. Et Frédéric, eh bien, il est contrôleur à la CAF depuis 2016 dans le département de l'Hérault. Bonjour Frédéric.
Bonjour Estelle, bonjour l'équipe.
Merci Frédéric en tout cas d'être avec nous. Est-ce que vous, en tant que contrôleur à la CAF, vous avez assisté à pas mal d'abus ou est-ce que c'est extrêmement minoritaire?
Alors non, c'est pas minoritaire et on oppose souvent le débat fraude fiscale et fraude sociale à chaque fois, mais c'est tout pas justifié. On n'a pas les mêmes sommes, on n'a pas les mêmes enjeux. Donc chaque contrôleur, que ce soit en fonction de son secteur, intervient sur son domaine. Nous, en CAF, on rencontre vraiment de la fraude régulièrement.
Mais alors, genre après, quoi, Frédéric?
Tous les allocataires ne sont pas fraudeurs, il faut bien le signifier. Mais ça va aller de la fraude à la situation familiale, aux revenus dissimulés, au faux logement, à la résidence, avec des gens qui habitent effectivement à l'étranger. Et à certains moments, on parle de... de personnes pauvres. Un dernier exemple en date, 200 000 euros sur 3 ans de revenus dissimulés.
Voilà. Ah ouais.
Après, là, ah ouais, alors, sur des contrôles résidence où on a des gens qui font le tour du monde.
Voilà. Grâce à la CAF?
Grâce au RSA.
Ah oui,
ils reviennent régulièrement en France, de temps en temps, sur des périodes. Ouais. Et puis pendant ce temps, ils profitent. Après, il ne faut pas oublier quelque chose. C'est que c'est pour défendre le système social. Il y a des gens qui ont besoin de protection parce qu'ils ne peuvent pas vivre sans ça. Donc il faut les maintenir. Sauf qu'aujourd'hui, on ouvre des droits à des personnes qui ne travaillent pas. Des gens qui ont le même âge que vous. Quand vous les rencontrez, ils n'ont aucun problème médical. Et derrière, ils ne travaillent pas. Pas un jour dans l'année. Donc le problème, c'est que le système est détourné à certains moments.
Mais Frédéric, quand vous êtes, vous assistez à des fraudes, voilà, les fraudes dont vous parlez, vous êtes écouté, ces personnes sont radiées, comment ça se passe?
Après, il y a toutes les procédures. Hein. Donc nous, on a tout un protocole avec des obligations en tant que contrôleur de se présenter, de procédures contradictoires, en informant toutes les démarches qu'on a fait. Donc on informe ce qu'on a relevé dans le cadre de nos investigations. Et derrière, les gens, ils précisent s'ils sont d'accord ou pas d'accord. En fonction, d'accord. Même s'ils sont pas d'accord, ben, on régularise les dossiers. Après, il y a les procédures de recouvrement qui se mettent en place, procédures qui peuvent être contentieuses ici, etc.
Donc, en tout cas, pour vous, c'est une bonne mesure. Le gouvernement va vous aider quelque part.
Alors, je vous cache pas qu'il n'y a rien de nouveau en soi. Ah bon. Ça fait des années que les contrôles, ils existent. Ils ont toujours existé. C'est juste que la politique de contrôle, elle s'affiche de manière plus claire aujourd'hui. D'accord. C'est une bonne chose. Mais sérieusement, c'est nos impôts qui y passent. Donc à un moment donné, on posait toujours la fraude fiscale, oui, il y en a, mais c'est pas la même. Nous, on n'est pas embauchés par les impôts. Donc nous, à un moment donné, on a un travail. Et il faut que... Vous imaginez des personnes qui sont dans des situations précaires et qui se retrouvent à vivre qu'avec le RSA, alors que d'autres sont dans la même situation, ils encaissent des revenus,
ou ils font le tour du monde.
Voilà, et où ils font le tour du monde. Donc c'est pas normal.
Mais vous avez raison. Merci beaucoup, en tout cas, Frédéric, d'avoir été avec nous. Notre invité sur ce débat, c'est Pascal Brice. Il est président de la Fédération des acteurs de la solidarité. Bonjour, Pascal Brice.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que vous vous félicitez des mesures prises par Gabriel Attal aujourd'hui?
Ah ben les mesures, oui. Le problème, c'est la petite mesure et la petite musique et le commentaire de texte.
C'est-à-dire que
l'État fasse le boulot pour mettre un terme à tous ces scandales que Frédéric vient d'évoquer. On se dit juste que ça fait un bail que ça aurait dû être fait.
Oui.
Le problème, c'est quand on vous explique une fois que vous comprenez, il y a un seul problème de justice sociale dans ce pays, c'est les gens qui touchent le RSA et qui travaillent pas. Et puis un autre qui vous dit d'un côté il y a la France qui travaille et de l'autre la France qui touche les aides. Et puis un troisième jour, il y en a un qui dit « Ouais, mais enfin, le problème, c'est quand même des étrangers qui envoient ça au Maghreb. » Donc, si vous voulez lutter contre la fraude, Les grandes entreprises, les entreprises qui payent pas les cotisations sociales, tout ce qui tourne autour de la carte vitale, tous les scandales dont parle Frédéric et qui pèsent d'abord sur celles et ceux qui sont l'immense majorité des gens qui sont aux minima sociaux et qui ont besoin de ça pour survivre à 500 euros, oui, ça c'est nécessaire, indispensable. Mais je voudrais qu'on évite la petite musique qui est très politicienne, parce que on est dans un pays où il y a des tas de gens qui bossent et qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois.
C'est vrai.
Et qu'on prenne pas prétexte de ça pour leur dire, vous savez, en fait, le problème, c'est celui qui est à côté de vous, là, qui touche les minima sociaux. Alors que on pourrait s'interroger sur toutes celles et ceux qui pourraient contribuer plus dans ce pays qui ne le font pas. Sans parler de la fraude fiscale, et ça je me réjouis aussi que le gouvernement s'y attaque. Donc vous voyez, si on faisait des trucs efficacement, sans faire de la démagogie politicienne pour ajouter, essayer de d'attirer des voix sur la crise des classes moyennes, je pense que ça irait mieux pour tout le monde.
Mais est-ce que vous avez pas... Pardon.
Juste en termes d'affichage, on est quand même d'accord, Pascal Brice, je vous parlais de cette petite musique, mais c'est plus simple d'expliquer aux Français que, grosso modo, on va taper sur leurs voisins, encore une fois, que d'expliquer des mécanismes immensément compliqués pour lutter contre la fraude fiscale. Quelque part, c'est aussi plus facile à expliquer.
C'est plus facile quand on est dans la paresse et la démagogie.
Oui,
vous savez, c'est un peu le truc, soyons forts avec les faibles et faibles avec les forts. On connaît tout ça dans nos milieux de travail. Vous êtes toujours des gars.
Ce que vous dites n'est pas très juste.
Non, moi je trouve que c'est pas juste.
Qui se planquent par rapport à leur patron et qui sont désagréables avec leurs collaborateurs. L'État, à nos yeux et à mes yeux, il est d'abord là pour les plus fragiles.
D'ailleurs,
et donc, ce que je demande, c'est que on résolve la crise des classes moyennes dans ce pays qui est profonde, qui est réelle, parce qu'il y a une partie des classes précarisées qui des classes
moyennes
précarisées
au
travail.
Mais oui, mais c'est ça le problème, c'est qu'on oppose les uns aux autres. Et en fait, vous parlez de démagogie, mais pendant des années, on en a fait à un autre degré de la démagogie. On est toujours le démagogue de quelqu'un. Avant, c'était bon, ben là, on laisse filer parce que justement, par clientélisme, c'était des gens qui pouvaient voter d'un côté ou de l'autre. Je suis sur le fond, je suis pas en désaccord avec vous, mais.
On aurait jamais dû faire ça.
Ça a été un tort. Effectivement, ça a été un tort. Mais je pense qu'on a rivalisé de démagogie sur les 20 dernières années sur ce sujet. Aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'on le fait pour envoyer un message vers les classes moyennes, et j'ai bien compris, je l'ai bien entendu comme vous, alors qu'au fond ce serait tellement plus simple si on était si on tapait sur tout le monde là où fraude il y a et là où on doit récupérer, quoi.
Mais là on est d'accord, mais ce que dit Pascal,
je crois qu'au fond on devrait tous être d'accord.
Oui, mais il y a un moment où le gouvernement doit aussi taper fort sur la fraude fiscale.
Bah c'est ce qu'il a annoncé il y a 8 jours.
Il y a eu un plan qui a été annoncé
à 8 jours.
Nous ne nous opposons pas sur rien, quoi. Non,
après, ce qui est vrai, c'est qu'il y a un passif ancien, qui est pas propre d'ailleurs à Gabriel Attal en tant que tel, qui fait qu'on a souvent beaucoup plus tapé en liste, ne fût-ce qu'en termes de stigmatisation, quand bien même d'ailleurs on tapait finalement pas vraiment, mais en termes de stigmatisation, on envoyait souvent vers les plus pauvres, vers ceux qui avaient du mal à trouver du boulot. Gabriel Attal a quand même pas pu s'empêcher de mettre une phrase en disant la fraude sociale, c'est surtout la fraude contre les gens qui travaillent. Oui, mais pas que, enfin je veux dire, parce que sous-entendu, donc les fraudeurs sont ceux qui travaillent. Ben, il a quand même pas pu s'empêcher d'en glisser une petite macronienne derrière. Et donc effectivement, c'est là-dessous où il faut être très attentif. Après, je répète, personne ne peut soutenir la fraude, parce qu'on ne peut pas soutenir ce qui est contraire à la loi.
Alors merci Pascal Brice, en tout cas, d'avoir été avec nous, d'avoir été notre invité dans Estelle Midi. On va voir ce qu'en pensent nos auditeurs, nos téléspectateurs. On vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Fraude sociale, l'État se trompe-t-il de cible?
Non, l'État ne se trompe pas de cible pour 58% des personnes qui sont prononcées sur nos réseaux sociaux.
Ah, c'est pas une très 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 large majorité. Non,
c'est partagé, j'ai l'impression que c'est à l'image finalement de ce qui ressort de ce débat. On devrait au final tous être d'accord et on doit taper de partout.